Imagine un peu la scène. On est à la fin du service dans un resto hyper branché de Casablanca. La salle se vide, les serveurs nettoient un peu les tables, le chef y fait son dernier inventaire dans la chambre froide, quoi.
La routine de fin de service, ouais.
Voilà, la routine. Et là, côté ruelle derrière, la brigade sort des énormes sacs poubelles noirs.
Ouais.
Et maintenant, je veux que tu fermes les yeux et que tu imagines que ces sacs, en fait, ils sont pas remplis de restes de nourriture ou d'emballage.
OK.
Ils sont remplis de liasses de billets.
Ah ouais, des dirhams directement à la poubelle.
Des dirhams par milliers, exactement, qu'on jette littéralement sur le trottoir tous les soirs. C'est complètement absurde, on est d'accord.
C'est totalement absurde, mais c'est très visuel. Mais d'une précision clinique, en fait. Structurellement parlant, tu sais, le modèle traditionnel de la restauration a toujours accepté cette perte de matières premières comme une espèce de fatalité.
Comme si on n'avait pas le choix.
C'est ça. C'est même intégré dans les business plans classiques. Tu regardes la ligne coût de fonctionnement ou perte inincompressible, on jette parce que c'est la norme dans cette industrie, quoi.
Ouais.
On achète, on part, on taille et paf, on jette 30 à 40% du volume initial avant même d'allumer les fourneaux.
Avant même de cuire. C'est ouf. Et c'est précisément là qu'on va aller creuser aujourd'hui. Donc bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on va disséquer un document stratégique hyper pointu. Un document qui vient tout juste de sortir sur la plateforme monprojet.ma. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui le 24 août 2026, donc c'est tout frais, c'est publié aujourd'hui même.
Tout à fait.
Et c'est une véritable feuille de route, en fait, qui est destinée à la nouvelle génération d'entrepreneurs marocains, la jeunesse marocaine qui veut se lancer. L'idée centrale, c'est d'ouvrir un restaurant zéro déchet à Casablanca.
Et c'est un sacré défi.
C'est clair. Mais attention, là, on ne parle pas d'une utopie pour militants écologistes purs et durs, tu vois. On parle vraiment de transformer une contrainte environnementale qui est radicale. Genre, aucun déchet, aucun plastique, zéro gaspillage.
Ouais.
Transformer ça en un modèle économique d'une rentabilité qui est presque effrayante, tellement elle est haute.
C'est tout le paradoxe fascinant de cette approche, je trouve. Parce que pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord regarder la taille du problème de base. Le Maroc produit environ 6 millions de tonnes de déchets ménagers par an.
6 millions, c'est énorme.
Ouais, c'est massif. Et la restauration urbaine y contribue largement. Donc ce que ce nouveau modèle propose, ce n'est pas de faire de la charité environnementale, hein. C'est une réponse qui est strictement mathématique, en fait.
Ah oui, c'est du business.
C'est du business pur et dur. On prend une charge financière très lourde, donc acheter des produits pour finalement payer quelqu'un pour s'en débarrasser, parce que c'est ça la réalité.
C'est clair.
Et on la convertit directement en marge nette.
Ok, d'accord. Mais posons les bases un instant. Pour qu'un business fonctionne, il faut des clients.
Bien sûr.
Pourquoi Casablanca spécifiquement, puis Shark Attirer?
Bah, Casablanca, tu le sais, c'est la machine économique du pays. On parle d'un bassin de plus de 4 millions d'habitants. Il y a une très forte concentration de richesses et tu as une classe moyenne supérieure qui est vraiment en pleine mutation en ce moment.
Ouais, ils cherchent de nouvelles choses.
Exactement. Et le guide de monprojet.ma est super précis là-dessus. La cible est chirurgicale, vraiment. Ce sont les jeunes actifs urbains, genre 25 à 45 ans, les cadres, les étudiants de grandes écoles. Tu as aussi la communauté des expatriés, bien sûr, et les touristes internationaux qui sont de passage et qui sont déjà très sensibles à ces questions-là.
Donc un public plutôt aisé, quoi.
Voilà. Ce sont des populations qui vont graviter autour de quartiers hyper précis, des quartiers comme Gautier, le Marif, Anfa, Bourgogne.
Ok, d'accord. Mais concrètement, j'ai vu dans le document, ces gens-là ont un budget moyen de, on va dire, 80 à 200 dirhams par repas.
C'est ça.
Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils vont dépenser cet argent pour un concept zéro déchet? Parce que, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'on s'adresse à une micro-niche de hipsters qui ont trop d'argent, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois totalement. Et c'est un biais de perception très courant. Mais en fait, la psychologie de ce consommateur-là, elle a complètement basculé ces dernières années.
Ah bon? Comment ça?
Eh bien, ce segment ne paye plus uniquement pour les calories dans l'assiette ou le prestige de l'ingrédient pur, genre le caviar ou je ne sais quoi. Il paye pour l'alignement avec ses propres valeurs.
D'accord, je vois.
Il paye pour l'histoire du produit et surtout pour l'exclusivité de l'expérience. Tu vois, le marché de la restauration saine, le fameux healthy, il commence vraiment à saturer.
Ouais, les trucs avec les bols d'açaï, les salades au quinoa, on en voit partout maintenant.
Mais exactement, il y en a à tous les coins de rue au Marif. En revanche, le zéro déchet intégral, mais avec un vrai niveau de gastronomie, un truc premium, ça c'est un territoire complètement vierge au Maroc. C'est ce qu'on appelle un océan bleu.
À l'océan bleu, ouais, aucune concurrence.
Voilà. Et c'est l'avantage absolu du premier entrant, le First Mover Advantage. Celui qui s'installe aujourd'hui en 2026 avec ce niveau d'exigence, il va capter toute la demande. Une demande d'une clientèle qui cherche désespérément à consommer propre, mais qui trouve pas vraiment d'offres premium bien structurées.
Ok, je comprends tout à fait l'attrait psychologique et ce côté territoire vierge à conquérir. Mais là où j'ai vraiment besoin qu'on m'explique les choses, qu'on décortique, c'est sur les mécanismes financiers de ce guide. Le plan d'affaires, il avance une marge nette potentielle de 29%.
Ouais, 29.
Attends, pardon, mais 29% de marge nette dans la restauration. La plupart des restaurateurs que je connais, ils sablent le champagne quand ils arrivent à gratter 10 ou 12% en fin d'année.
Et encore s'ils y arrivent, ouais.
Voilà. Et là, j'ai vraiment du mal à voir comment le simple fait de, je sais pas moi, de garder des éplucheurs de pommes de terre ou des fans de carottes, comment ça peut combler un gap de 17 points de rentabilité? Qu'est-ce qui m'échappe dans cette équation?
En fait, ce qui t'échappe, c'est l'effet de levier massif sur le coût de la matière première.
Ah, d'accord.
Dans un resto traditionnel, ce qu'on appelle le food cost, donc le coût des ingrédients, ça représente facilement 30 à 35% du chiffre d'affaires, d'accord?
Ok.
Or, dans ce modèle classique, le chef, bah, il taille ses légumes, il lève ses filets de poisson et il jette, allez, la moitié du poids brut à la poubelle. Donc toi, le patron, tu as payé pour 100% du produit, le légume entier, mais tu n'en sers que 50% à tes clients.
Donc tu jettes la moitié de ton argent par la fenêtre.
Exactement. Et la méthode zéro déchet, ou plutôt on va l'appeler la cuisine créative anti-gaspillage, ça consiste pas à servir des poubelles aux gens, hein.
Je préfère ça, ouais.
Ça consiste à utiliser des techniques culinaires de haute volée pour valoriser les 50% restants. C'est là que le génie opère.
Mais comment, concrètement? On va quand même pas facturer une assiette, genre une assiette d'épluchures de patates à 150 dirhams.
Non, bien sûr que non. C'est là qu'intervient toute la technique du chef. Prends l'exemple d'un pesto. Traditionnellement, un pesto, ça demande du basilic frais, des pignons de pin, du parmesan. Et tout ça coûte extrêmement cher.
Surtout les pignons de pain, ouais.
Voilà. Le chef zéro déchet, lui, ce qu'il va faire, c'est récupérer les fans de carottes ou les fans de radis de son plat principal. Il va utiliser des graines de tournesol locales grillées et il va créer un pesto de fans qu'il va servir comme un condiment signature, super élégant, avec un poisson, par exemple.
Waouh, malin.
Et le coût de ce pesto, il est réduit de 80% par rapport à la version classique, vu qu'il est fait avec de la matière qui était déjà payée et qui, de base, était destinée à la poubelle.
Ah ouais, c'est clair.
Autre exemple que donne le guide zéro déchet, la lactofermentation ou la déshydratation.
J'ai vu ça.
Les épluchures de légumes racines, elles deviennent des chips super croustillantes pour l'apéritif. Le pain rassis de la veille, tu le jettes pas, il est transformé en chapelure artisanale ou même en base pour un dessert créatif.
Ah, je vois. En fait, le secret, il est là. Donc, on ne diminue pas le prix de vente au client, mais on effondre complètement le coût d'achat à la source.
Mais c'est exactement ça. En optimisant chaque gramme qui rentre dans ta cuisine, tu réduis tes achats globaux de 30 à 50%. Ton food cost, il passe de 35% à peut-être 18 ou 20%. Et cette différence de 15 points, bah, elle s'évapore pas dans la nature, hein.
Elle va dans ta poche.
Elle va se loger directement dans ton bénéfice net, tout en bas de ton tableau comptable.
C'est franchement brillant sur le papier, c'est vrai. Mais je me pose une question. Comment un chef gère ça au quotidien? Parce que si on refuse les grossistes standards pour éviter le plastique et le suremballage, et qu'on travaille uniquement en circuit court, genre avec des petites fermes locales, le chef, il sait jamais vraiment ce qu'il va recevoir le matin. Il peut pas imprimer un menu fixe pour 6 mois, c'est impossible.
Non, c'est impossible, tu as raison. Et c'est vraiment le cœur du réacteur de ce modèle. Le menu doit être entièrement modulaire.
Modulaire, ok.
Tu vois, on ne vend plus genre le pavé de bœuf aux morilles. On vend sur la carte la protéine de la ferme, déclinaison de légumes de saison et son jus corsé.
Ah, c'est plus poétique, ouais, ça laisse de la marge.
C'est ça. Le chef, il s'adapte à l'arrivage du jour. Alors oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus exigeant intellectuellement pour la brigade. Ça demande une vraie maîtrise technique, il faut être créatif tous les jours. Mais c'est ça qui crée la rareté et l'exclusivité pour le client.
Le client vient pour la surprise, en fait.
Exactement.
Bon, ça nous amène justement au fameux scénario d'investissement du guide. C'est là que le côté mode d'emploi prend tout son sens pour la jeunesse marocaine. Si je suis un jeune entrepreneur qui écoute ça, Par quoi je commence? Le plan décrit un scénario starter avec un budget de 350 000 dirhams.
Mmh, tout à fait.
350 000, c'est l'équivalent d'un gros SUV, hein. C'est quand même très abordable pour se lancer dans la restauration. On parle d'un local, je crois, de 40 à 60 mètres carrés, c'est ça. Idéalement au Maharif ou à Bourgogne.
C'est ça, un modèle vraiment compact. Tu vises à peu près 50 couverts par jour, pas plus, avec un ticket moyen à 95 dirhams.
Ok. 95 dirhams, c'est très correct pour le midi, par exemple.
Ouais, ça passe très bien. Et là, le chiffre d'affaires, il plafonne autour de, on va dire, 142-500 dirhams par mois. Et avec cette fameuse optimisation des coûts dont on vient de parler, tu dégages un bénéfice net d'environ 37 500 dirhams, donc une marge de 26%.
37 500 dirhams dans ta poche à la fin du mois.
Voilà. Et le retour sur investissement, tu le fais en seulement 10 mois.
10 mois ? Mais c'est hyper rapide.
C'est très rapide. C'est un test parfait pour valider le concept sur le marché de Casa sans prendre un risque financier de dingue.
Ouais, mais là où la magie des maths opère à fond dans le guide, c'est sur le scénario avancé. Là, on vise un emplacement vraiment premium, genre Anfa ou Gautier, 100 à 150 mètres carrés pour un budget d'environ 1,2 million de dirhams.
On passe à la vitesse supérieure, là.
Ouais, on rigole plus. Sauf que, si j'ai bien compris, on ne fait pas juste agrandir la salle du resto. On crée un véritable écosystème. Il y a un bar à jus, une épicerie vrac, des ateliers de cuisine. Et là, boum, on atteint les 29% de marge nette avec un retour sur investissement en 8 mois. 8 mois ?
C'est impressionnant, hein ?
Mais comment le fait d'ajouter des activités différentes augmente la marge ? Ça devrait plutôt compliquer la gestion et faire exploser les coûts, non ?
Alors, ça la complique au niveau administratif, c'est sûr. Mais ça crée une synergie incroyable sur la matière première.
C'est-à-dire ?
Il faut penser ça comme un système de vases communicants. Dans ce scénario avancé, ton bar à jus et ton épicerie vrac, ils agissent comme des tampons de sécurité pour ton restaurant.
Des tampons, ok.
Imagine, un fruit qui devient un tout petit peu trop mûr que le chef ne peut plus présenter tel quel dans une belle assiette gastronomique. Ben, elle ne va pas à la poubelle.
Il va où alors, hein ?
Il glisse directement vers le bar à jus, où il va être mixé pour un smoothie. Ni vu ni connu. Et pareil pour les invendus secs de ton épicerie vrac. Si te restent des lentilles ou des pois chiches qui arrivent en fin de rotation, hop, ils basculent en cuisine pour faire des bouillons ou des houmous.
Ah ouais, c'est génial.
Rien ne sort de l'établissement. Tu mutualises complètement tes achats, tu élimines les pertes entre tes propres micro-départements. C'est cette boucle fermée, cette économie circulaire en interne qui pousse la rentabilité à 29%.
D'accord, l'ingénierie financière est vraiment impressionnante. Mais redescendons sur Terre juste une minute.
Je t'écoute.
On est au Maroc. L'administration, c'est souvent le grand mur sur lequel les meilleures idées viennent s'écraser, tu vois. Tu ne peux pas juste débarquer, dire « je vais faire du zéro déchet et composter mes restes dans l'arrière-boutique sans que les autorités sanitaires ne s'en mêlent ».
Oh, certainement pas.
Le guide mentionne qu'il faut passer par la plateforme roca.ma, catégorie « restaurant non classé ». Mais il y a un obstacle majeur dont il parle, non ? L'ONESA.
Ah, l'ONESA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. C'est le point de friction absolu de ce projet.
Ouais.
Leurs protocoles y sont pensés, et à juste titre d'ailleurs, pour des raisons de santé publique, pour des processus industriels hyper linéaires. En gros, pam, la matière propre entre par une porte, les déchets sortent par une autre. Point final.
C'est ça. Pour imaginer la chose, en fait, c'est un peu comme si tu essayais de brancher un réacteur nucléaire expérimental sur un vieux tableau électrique des années 90, quoi.
C'est une excellente métaphore.
Le gouvernement a des normes hygiène super rigides, c'est le vieux tableau électrique. Et c'est parfait pour un resto normal. Mais quand tu arrives avec ton concept hybride, où tu veux récupérer des invendus et faire du compostage organique à genre 3 mètres de ton plan de travail, bah le système, il disjoncte.
Exactement. Pour l'ONSSA, composter sur place ou retravailler des produits qu'ils estiment en fin de vie, c'est une alerte rouge directe au risque biologique. Et voilà, contamination croisée, ils voient l'attraction des nuisibles, les ruptures de chaîne du froid.
Ça leur fait peur, c'est normal.
Totalement. C'est pour ça que la feuille de route de monprojet.ma, elle insiste très lourdement sur les mois 2 et 3 du projet. Tu peux pas, mais vraiment pas, arriver devant la commission en disant « bon, bah, faites-moi confiance, ça va bien se passer ».
Ça marche pas comme ça. Alors, comment on navigue dans ce vrai champ de mine réglementaire ? On fait quoi, hein ?
Eh bien, il faut faire de l'ingénierie inversée. Dès la création de ton plan d'architecte, tu dois intégrer les normes de la marche en avant de l'ONSSA.
La marche en avant, D'accord.
Le circuit de ce qui part au compost il doit être physiquement scellé et complètement isolé de la zone de préparation de tes plats frais.
Ok, donc on sépare vraiment les flux.
Absolument. Il faut même prévalider tes protocoles de nettoyage et de stockage de ces fameuses matières organiques avec des experts de l'hygiène avant même de déposer le permis de construire. Si tu traites le compostage comme « Oh, une petite idée sympa ajoutée à la dernière minute », ton restaurant il n'ouvrira jamais ses portes.
Jamais. Ouais, il te bloque net. Bon, ok, alors admettons que le cauchemar administratif, ça y est, il soit derrière nous. Le local est prêt, il est aux normes, l'équipe est formée aux fermentations complexes. Il faut maintenant faire asseoir ces fameux jeunes cadres de Casa à nos tables.
C'est le but, ouais.
Et c'est là qu'on touche à une dynamique qui est quand même très délicate en marketing. Comment tu vends l'écologie radicale à des gens qui, à la base, veulent juste passer un bon moment au resto, sans passer pour, tu sais, le militant donneur de leçons. Personne, mais vraiment personne, n'a envie de se faire sermonner sur la fonte des glaces pendant qu'il déguste son entrée, quoi.
Mais exactement, et c'est le piège. Le pire ennemi du marketing durable aujourd'hui, c'est la culpabilisation. Si le client, il a l'impression d'être à l'école ou d'être puni parce qu'il consomme mal, bah, il ne reviendra pas. C'est aussi simple que ça.
C'est clair.
Le positionnement de la marque, il doit être basé sur le plaisir, sur l'innovation et ce que le guide appelle l'hédonisme responsable.
L'hédonisme responsable, j'aime bien le terme. Et c'est là que j'ai adoré l'idée de la carte impact qui est mentionnée dans le document. On prend ce vieux concept, un peu poussiéreux de la carte de fidélité, tu sais, où on te met un coup de tampon pour avoir un 11e café gratuit.
Le truc classique, ouais.
Et on le transforme. Ici, dans ce resto, le client, il accumule des grammes de déchets évités. C'est génial!
C'est de la gamification pure et dure. Tu transformes ton client en héros de sa propre consommation, en fait. Au lieu de lui dire « Regardez comment nous, le restaurant, on est géniaux de ne pas polluer. »
Ouais, on lui renvoie le mérite.
Voilà, tu lui dis « Grâce à vous, ce midi, eh bien, nous avons sauvé 400 grammes de matière organique et évité 20 grammes de plastique à usage unique. »
C'est hyper valorisant pour lui.
Complètement. Et quand il atteint un certain palier de grammes sauvés, il gagne pas juste un pauvre dessert gratuit, tu vois. Il gagne, je sais pas, une place pour un atelier de fermentation avec le chef ou un produit exclusif de l'épicerie Vrac. Tu renforces l'idée de communauté.
C'est super intelligent. Et côté réseaux sociaux, parce que bon, on sait très bien que tout se joue sur Instagram et TikTok pour cette génération-là, la stratégie visuelle, elle doit être impeccable. Et en lisant le guide, je voyais très bien le format des vidéos un peu avant-après.
Ah oui, les fameuses avant-après.
Tu vois, le chef, il montre un chou-fleur entier, tu sais, un peu moche, brut, avec ses énormes feuilles vertes. Et la seconde d'après, bim, un montage hyper rythmé. Et là, on te montre que le cœur est rôti aux épices, les feuilles, elles, ont été transformées en chips croustillantes, et le tronc qui était super dur est devenu un velouté onctueux. C'est hypnotique sur les réseaux.
Ah, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle la pornographie culinaire, mais là, elle est orientée sur la technique et la réduction des déchets. Et ça, ça démystifie totalement le processus.
Ouais, ça montre que c'est bon, en fait.
Exactement. Ça prouve visuellement que l'anti-gaspillage, c'est hyper appétissant, c'est pas triste. Et c'est crucial pour justifier ta politique de prix derrière.
Justement, les prix.
Avec un menu d'appel à 75 dirhams pour le déjeuner, par exemple, bah, tu te démocratises l'accès. Tu fais venir du monde, tu leur fais tester l'expérience sans trop d'engagement financier. Et le soir, hop, tu montes en gamme avec des plats signatures à 150-200 dirhams pour vraiment maximiser ton ticket moyen.
Ouais, je te coupe là-dessus, parce qu'il y a un piège énorme là-dedans, à mon avis.
Vas-y.
Les consommateurs d'aujourd'hui, surtout cette cible des 25-45 ans qui est hyper connectée, ils ont un radar à greenwashing ultra sensible.
Ah, ça oui, ils te repèrent de loin.
Ils sentent l'entourloupe à des kilomètres. Si un client, il arrive et a l'impression que la belle déco en bois de palette et les mots zéro déchet sur le menu en papier Kraft, bah c'est juste un filtre vert posé sur un restaurant industriel classique juste pour justifier de lui vendre un plat à 200 balles.
Ouais, le bad buzz assuré.
Exactement, il va détruire la réputation de l'établissement en ligne, sur TripAdvisor, sur Google, en moins de 24 heures. Comment on se protège de ça concrètement?
C'est des changes qui comptent au final. Le guide de monprojet.ma, il propose une solution qui, bon, qui peut paraître effrayante pour un restaurateur de la vieille école, mais qui est d'une efficacité redoutable, c'est la transparence absolue et radicale.
D'accord, la transparence radicale, mais concrètement, visuellement, ça ressemble à quoi dans le resto?
Eh bien, ça ressemble à un vrai tableau de bord en direct, physiquement affiché sur un écran dans la salle du restaurant, ou au moins disponible en direct sur l'application mobile.
Waouh, ok.
Tu vois, tu te contentes pas de dire sur un petit panneau « Nous sommes éco-responsables ». Non, tu affiches la data, la vraie donnée, en temps réel. Genre, tu. Aujourd'hui, 92% de nos ingrédients ont été sourcés dans un rayon de 40 km, 95% de notre matière organique a été valorisée et nous n'avons envoyé que 3 kilos au compost urbain.
Ah ouais, des vrais chiffres, pas du blabla?
Des chiffres vérifiables. Quand tu ouvres le capot de ta boîte et que tu montres tes métriques opérationnelles comme ça, le spectre du greenwashing, il disparaît instantanément. Personne ne peut contester des données chiffrées qui sont assumées publiquement tous les jours. C'est la preuve par l'acte.
C'est fou parce que ça boucle totalement la boucle de ce modèle.
Totalement.
Tu prends une contrainte environnementale énorme, tu l'utilises en fait pour couper drastiquement tes coûts d'achat. Ensuite, tu prends cette même rigueur opérationnelle pour en faire un argument marketing complètement inattaquable via cette transparence dont tu parles. Cet argument-là, il attire ta clientèle premium, qui est prête à payer, ce qui génère un chiffre d'affaires élevé, avec à la fin cette fameuse marge nette de 29% que la restauration classique n'arrive jamais à atteindre. C'est un cercle vertueux d'une efficacité clinique, quoi.
Exactement. Et c'est vraiment pour cela que ce document publié aujourd'hui sur monprojet.ma, il dépasse largement le simple cadre de la restauration. Ce qu'on vient d'analyser ensemble là, c'est pas juste une petite recette sympa pour ouvrir un bistrot de quartier.
Non, c'est bien plus gros.
C'est une véritable masterclass sur l'innovation des modèles d'affaires. L'essence de l'entrepreneuriat moderne, au final, c'est ça. Être capable de regarder un marché mature, d'identifier une inefficacité monstrueuse.
En l'occurrence, jeter la moitié de ce qu'on a payé. Ouais.
Voilà, de corriger cette inefficacité par l'ingénierie et l'intelligence et d'en faire une barrière à l'entrée insurmontable pour toute ta concurrence.
Et ça, je pense que c'est vraiment la vraie leçon à retenir de notre exploration d'aujourd'hui. Et si tu nous écoutes aujourd'hui, toi, l'auditeur, et que tu t'intéresses au monde des affaires au Maroc, prends un peu de recul 2 secondes. Si un secteur aussi stressant, complexe et vraiment fragile que la restauration, où l'on travaille avec des matières ultra périssables, des normes d'hygiène drastiques comme le NSA, s'il arrive à dégager près de 30% de marge nette juste en arrêtant de jeter ses ressources, pose-toi la question. Quelles autres industries traditionnelles marocaines fonctionnent aujourd'hui avec des processus archaïques?
Il y en a beaucoup.
Il y en a énormément. Pense, je sais pas, au textile, par exemple, et ces montagnes de chutes de tissus. Pense au secteur de la construction et ces tonnes de gravats. Ou même à l'agro-industrie classique.
C'est clair.
Toutes ces industries, en fait, elles sont probablement assises, en ce moment même, sur des gisements complètement invisibles de valeur. Elles ont des montagnes de déchets qu'elles paient pour évacuer. Elles n'attendent que la prochaine génération d'esprits vifs qui liront entre les lignes de leur bilan financier pour transformer ces poubelles industrielles en avantages concurrentiels majeurs. C'est là que se trouve l'or de demain, en fait. C'est pas ailleurs.
Une belle perspective, ouais.
Écoute, merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante. Garde l'œil ouvert, remets en question les normes de ton secteur et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de nouvelles stratégies et de nouvelles sources. À très vite.